peut sortir là. Allez là.
Sortez, ça fait trop du bien. Ça fait dégourdir les
jambes.
Allez-y, les
gars. Moi je sors tout le temps.
Mais putain, sortez chez vous, bordel.
Je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête. Allez, touchez l'herbe, sortez.
Oui, alors oui. Franchement, c'est trop chouette.
Oui,
c'est
la culture.
Allez-y, quoi.
Allez, sortez.
Sortez.
Sortez,
c'est
cool. Sortez les jambes. Ok,
vous voulez sortir?
Sortir.
Je suis chaud comme un chocolat.
Sorti tous avec nous.
Sors.
Il est 16h sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Vous écoutez l'émission Sortez et je suis comme toujours avec Samuel pour l'animation. Salut Samuel.
Salut Marie.
Donc la quatrième édition du festival Easy Listening de l'ensemble Ptix arrive à grands pas du jeudi 24 avril au samedi 3 mai. Un festival donc qui rassemble des artistes autour de la musique contemporaine, mais pas que, pour des représentations donc réparties sur la métropole de Tours. Et sont avec nous aujourd'hui pour présenter cet événement trois musiciens de l'ensemble Ptix, Jean-Baptiste Appéré, responsable artistique de l'ensemble qui arrive d'ici peu, Christophe Rostand, trompettiste et coordinateur du projet avec les étudiants du Pôle Aliénor, et Benjamin Garnier, violoncelliste à l'initiative donc d'une journée consacrée à cet instrument. Bonjour à tous les trois, à tous les deux pour l'instant.
Bonjour.
Bonjour.
Et donc pour débuter cette émission, est-ce que l'on peut dire un mot sur vos parcours et vos domaines de prédilection, Steve ?
Eh bien, moi je suis trompettiste. Mon parcours a commencé par l'étude de la trompette à l'harmonie, comme beaucoup de musiciens de cuivre. Et puis ensuite, j'ai intégré le Conservatoire de Grenoble, le Conservatoire de Nice, le Conservatoire de Lyon, Saint-Étienne. Je suis rentré au CNSM de Lyon et je suis devenu un spécialiste de la musique ancienne. Et après 10 ans comme intermittent dans cette catégorie de particulière de la musique, j'ai décidé de me tourner vers les musiques contemporaines. Et il y a 4 ans, j'ai eu la chance d'intégrer l'ensemble Ptix. Voilà rapidement mon parcours de musicien. Je suis aussi prof de culture du répertoire des cuivres au Pôle Aliénor et prof de musique de chambre. C'est dans ce cadre-là qu'on a eu un partenariat.
Et quant à moi, je suis violoncelliste. Comme Christophe, j'ai une formation de musique ancienne. Donc je défends ce répertoire autant que le répertoire de la musique contemporaine qui, à mon avis, nécessite d'être toujours accompagné afin d'être représenté le plus possible, en tout cas, au même titre que les autres esthétiques.
Et alors, bonjour Jean-Baptiste, qui est arrivé
bonjour.
À la vitesse de l'éclair. Donc on le disait, responsable artistique de l'ensemble Ptix, avec de nombreuses cordes à son arc. Comment va l'ensemble Ptix aujourd'hui ?
On est plutôt en pleine forme, j'ai l'impression. On travaille beaucoup, on prépare, voilà. On se voit beaucoup, ça nous fait du bien. Et puis, on essaye de proposer autre chose que l'amorosité qu'on nous impose à longueur de journée aux actualités.
Ah donc alors, Easy Listening, c'est un festival qui est organisé par l'ensemble Ptix sur l'ensemble de la métropole Tourangelle. Quel est son concept ?
Oula ! Alors, est-ce qu'il y a un concept ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que... Christophe, il aime bien les concepts.
Ouais, Jean-Baptiste, il a du mal avec les concepts.
C'est le partage, en fait, le concept, faire découvrir, emmener à des endroits un peu inconnus, et puis aussi passer par des grands classiques que finalement on entend assez peu et qui méritent d'être écoutés. Donc le concept est varié, mais tourné vers le partage et l'extérieur, c'est vraiment ça. Le but d'Easy Listening.
Et pourquoi ce nom, du coup, Easy Listening ?
Alors, c'est parce qu'on est assez fourbe. Il faut que ça soit très clair. C'est-à-dire que les auditeurs, auditrices qui s'attendent à trouver de la musique Easy Listening, comme dans les années 50-60, seront forcément un peu surpris. Donc, ce n'est pas de la musique facile à écouter, dans le sens où on met ça en fond quand on fait la vaisselle ou quand on reçoit des gens pour un apéro. Par contre, ce qui me plaisait dans le mot easy listening, c'est que déjà ça parle d'écoute, voilà, et qu'on a choisi quand même des pièces du répertoire où on se dit que pour quelqu'un qui n'est pas connaisseur, qui n'est pas initié, on peut rentrer dedans directement, sans qu'il y ait tout un blabla musicologique. Ou voilà. C'est-à-dire quasiment vraiment 90% de ce qu'on va faire là sur le festival, vous ne connaissez pas, mais vous pouvez vraiment venir et vous laisser embarquer dedans, parce que c'est très suave, parce que ça développe l'imaginaire, parce qu'il y a un plaisir à regarder les interprètes jouer. Pour diverses raisons, en fait, on peut se laisser embarquer. Et donc, c'est en ça que c'est peut-être facile, alors des fois, peut-être plus que facile à écouter, facile à découvrir, on va dire.
Et alors, cette année, donc, le thème qui a été retenu, choisi et exploré, c'est celui de l'anthropocène, avec la volonté de mieux écouter et appréhender ce qui nous entoure, avec aussi pour appui l'analyse de Michel Lussault, qui distingue planète, terre et monde. Comment est venue cette volonté ?
Bon, je réponds parce que là, du coup, je suis vraiment responsable de cet axe-là. Le festival, on l'a imaginé en 2020. En 2020, on était confinés, etc. Et puis, il y a eu un sursaut d'espoir pour la planète. On voyait des animaux dans la rue. Il y avait plein de choses, en fait, où on se disait, c'était il n'y a que 5 ans, mais que peut-être on pouvait changer un peu le cap vers lequel on s'était engagé depuis des dizaines d'années. Un cap d'ultra-consommation, capitaliste, etc. Et donc, on avait envie de poser un festival qui imposait autre chose, qui proposait justement de sortir d'une sorte de fatalité, de la planète va mal et puis on va droit dans le mur. Et la première édition, donc ça a un peu tardé, c'était 2022, mais elle était déjà sur cette idée un peu d'anthropocène, c'est-à-dire, en fait, notre monde, on a le nez dans le guidon, on le vit tous les jours, mais finalement, si on le regarde d'un peu loin, alors on ne va pas sur la Lune, mais imaginons voilà, qu'on voit la planète un peu de l'univers, prenons de la hauteur, prenons de la distance, prenons du recul et essayons de se dire que nous, musicalement, artistiquement, il y a des gens voilà, qui croient en des solutions, qui croient en des meilleurs possibles. Et cette année, on a beaucoup, beaucoup accentué, que ce soit avec les étudiants du Pôle Aliénor, que ce soit le projet avec Benjamin, avec des invités violoncellistes, en se disant on est une grande communauté là sur le festival, on est près de 40 quand même. Alors qu'aujourd'hui, en culture, il y a beaucoup de choses qui n'existent plus, faute de financement. Nous, on fait le contraire, on prend le pari du contraire, que le public a besoin de ça.
Et alors, je me tourne vers mon acolyte. Qu'est-ce que l'anthropocène ?
Mais très bonne question, c'est un terme qui fait débat au sein de la sphère scientifique. Alors, pour ne pas vous donner trop de termes complexes et farfelus pour nos cerveaux et les vôtres, allons à l'essentiel. Le terme anthropocène est dérivé des mots grecs anthropos, homme, et kainos, nouveau. La notion d'anthropocène est basée sur l'idée que l'activité humaine a modifié de manière significative la géologie, l'atmosphère, la biosphère et les océans de la Terre, comme par exemple le réchauffement climatique, la destruction de la biodiversité, la pollution de l'air et de l'eau, etc. Là où les activités humaines ont de fortes répercussions sur les écosystèmes de la planète et les transforment à tous les niveaux.
Merci. Oui, pardon, on s'amuse bien. Quoi. Alors, dans quel lieu pourra-t-on retrouver le festival ?
Je laisse la parole à Benjamin pour parler d'un des lieux, du samedi, par exemple.
Alors, le samedi... Le samedi, nous avons rendez-vous au conservatoire de Saint-Pierre-des-Corps, si je ne dis pas de bêtises, en deux temps. Pour les étudiants, pour ceux qui le souhaitent, les violoncellistes en tout cas, quel que soit leur âge, leur niveau, leur désir, leur curiosité, nous avons rendez-vous d'abord à 13h30 ce samedi pour un atelier découverte. Un dispositif pédagogique qui a été imaginé par un de nos invités pour cet événement. Un dispositif pédagogique qui invite à découvrir les modes d'expression de musique contemporaine, bien sûr, les plus larges possibles au violoncelle, encadré, dirigé de manière simple et ludique. Ce dispositif pédagogique a été récompensé. Et donc, c'est Benjamin Carra qui l'anime. C'est celui qui est notre principal invité sur la deuxième partie de cette journée, c'est-à-dire le concert lui-même, le soir même. Nous avons souhaité inviter Benjamin Carra parce qu'il va également présenter une de ses compositions. Cette composition a suffisamment interpellé Jean-Baptiste Et elle a été notre point de départ pour constituer ce programme autour de l'octoire de violoncelle, qui est une formation qui à la fois possède beaucoup de répertoires, qui a eu ses heures de gloire, notamment dans les années 80-90, qu'on entend un peu moins maintenant. Mais c'était l'occasion un petit peu de la remettre au goût du jour et de convoquer d'autres pièces incontournables, comme on pourra en reparler peut-être du Terry Riley, Philippe Persan, etc. Donc, je rajoute que cet atelier que j'ai évoqué dans l'après-midi, qui concerne les étudiants, les apprenants, ceux qui ont un violoncelle entre les mains, en tout cas, ne se contenteront pas de l'atelier. Ils pourront également se produire le soir même, lors du concert, en parallèle avec l'octoire de violoncelle.
Et oui, on aura l'occasion d'en reparler tout au long de cette émission. Quels sont les axes forts de la programmation lors de cette quatrième édition d'Easy Listening ?
Pour rebondir, en fait, donc effectivement, il y a ce travail avec le Conservatoire de Saint-Pierre-des-Corps. Mmh. Il y aura aussi, je laisserai Christophe en parler, un concert à l'école de musique de Chambray-les-Tours. Donc nous, c'est vrai qu'on a à cœur de passer notre savoir, notre expérience avec des jeunes apprenants, parce que c'est eux qui feront la musique demain. Il y a aussi des axes pour aller dans des endroits peut-être moins habitués aux musiques contemporaines, comme les Beaumont. Donc on est très content parce qu'il y aura deux dates au Beaumont, le 30 avril et le 1er mai, qui est un endroit qui est en plein essor et il se passe plein de choses. Donc voilà, nous on va aller aussi y voir. On fait aussi l'ouverture et la fermeture à la chapelle Saint-Libert, qui est un lieu plus destiné aux musiques un peu classiques, de répertoire. Les lieux, ils ont été choisis un peu au hasard aussi des disponibilités. Hein, voilà, on ne va pas se le cacher. En essayant de ne pas rester que sur Tours, parce que ce n'est pas un festival de Tours, hein, c'est un festival à Tours et aux alentours. Donc on finit même à Luynes pour prendre aussi, toujours lister de prendre de la distance, de la hauteur. Donc l'axe est aussi de traverser la ville différemment, en écoutant les musiques qu'on produit.
Et donc on en a déjà cité plusieurs.
Comment ils ont été sélectionnés, ces artistes invités pour le festival ?
Je n'allais pas partir là-dessus.
Les artistes du festival ? Donc il y a l'octeur de violoncelle dont Benjamin a parlé. Il fallait trouver les personnes. Comment ça s'est fait d'ailleurs ?
On est parti des compositeurs.
Ah oui, c'est vrai.
On est parti des compositeurs. On a essayé de partir ensuite des acteurs de territoire.
Ouais. Parce qu'on aime bien travailler local.
Donc on est sur l'octoire. On est quasiment à la moitié des interprètes qui sont locaux, tout simplement. Et puis après. On fait jouer un petit peu dans la balance le coefficient ceux qui connaissent cette musique-là, bien sûr. Si on prend l'exemple de Benjamin Cara que je citais tout à l'heure, et il n'est bien sûr pas sur le territoire, mais comme il vient pour deux raisons, une raison pédagogique, une raison artistique, puisqu'il est auteur d'une pièce, on a également fait venir une ancienne actrice du territoire qui est désormais joue dans sa région à lui.
Donc, Bordeaux.
Donc on a fait d'une pierre deux coups, que ce soit sur le plan humain ou sur le plan matériel. On pense au bilan carbone toujours. Et puis, après, pour les autres, c'était aussi une question de disponibilité, un petit peu comme...
Ouais, parce que c'est vrai que là, on rentre dans une période où c'est des week-ends très sollicités, hein, de toute façon, voilà. Donc ça, c'était une donnée. Il y a évidemment les étudiants du pôle Aliénor. Et pour donner un exemple, sur le concert du 1er mai, il y a une pièce acousmatique qui est jouée. Donc acousmatique, ça veut dire sur orchestre ou haut-parleur. C'est une pièce du répertoire de Bernard Pamedjani. Là, en fait, des interprètes qui savent faire ça, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peut-être 5 en France. Donc là, c'est Olivier Lamarche qui vient de la compagnie Motus, qui vient de Perpignan, donc qui vient d'assez loin, mais parce que c'est vraiment un de ceux qui peut interpréter cette musique. Donc on a voulu aussi faire venir à Tours des gens qu'on ne voit pas souvent et qui ont vraiment quelque chose à nous amener dans leur pratique de tous les jours.
Et alors oui, quand je disais, on en a déjà cité quelques-uns, moi je pensais aux partenaires. Quels sont les partenaires qui vous accompagnent sur cette édition ?
Parler du pôle, peut-être, Christophe.
Alors, le pôle Aliénor, moi, je suis professeur au pôle Aliénor et en fait, c'est vraiment une formation professionnalisante qui emmène toute une génération au métier de musicien. Et moi, mon intervention, elle sert à prendre connaissance des caractéristiques des répertoires des différentes périodes. Donc, généralement, je fais chaque année une période. Donc, j'ai commencé il y a 3 ans avec la musique baroque, Renaissance. Ensuite, on a vu classique, romantique, moderne. Et puis, cette année, c'était la musique contemporaine. Donc, j'adore la musique contemporaine. Je suis vraiment investi là-dedans. Mais faire un cours théorique sur les grands axes, c'est pas simple, puisque l'histoire n'est pas passée. Donc, on ne sait pas ce qui va rester. Donc, il faut sélectionner les différents courants. Et puis, qu'est-ce que j'avais envie de leur apporter? Et cette réflexion m'a amené à en discuter beaucoup avec Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, petit à petit, on en est arrivé à envisager une collaboration pratique. Parce que finalement, théoriquement, comme je me sentais coincé à bien des endroits, je me suis dit il faut qu'ils expérimentent. Et donc, c'est de là qu'est née la collaboration entre l'ensemble Ptix et le pôle supérieur à l'Énor. Et entre-temps, on m'a chargé des cours de musique de chambre. Et j'ai proposé naturellement à Jean-Baptiste de faire le concert de fin de semestre dans le festival, puisque en fait, on allait voir tout un éventail d'œuvres et ça rejoignait le concept Easy Listening, c'est-à-dire finalement... Moi, j'avais fait la passerelle pour mes étudiants. Et les étudiants font la passerelle pour le public, pour découvrir différents concepts de la musique contemporaine. Et c'est dans ce cadre-là que le partenariat s'est réalisé. Donc, mon but, c'était vraiment de balayer cet éventail des musiques contemporaines, mais aussi de permettre de faire le lien pour pas que ce soit un catalogue qu'on ne comprendrait pas trop. Et c'est hier qu'on a fait la générale pour ce concert. Et je dois avouer que les étudiants, en fait, ils m'ont mis les larmes aux yeux. C'était absolument magnifique ce qu'ils ont proposé. Ils sont allés au-delà de toutes mes propositions. Mais c'est vraiment un groupe absolument fantastique qu'on a pu découvrir aussi bien donc, humainement par les cours que j'ai pu mener avec eux, mais aussi par la collaboration qu'on a entamée samedi. Donc, on a passé samedi avec eux, puis dimanche, puis lundi,
ça, on les a vus, hein.
Puis mardi, puis mercredi. Et moi, je les ai vus hier. Et puis ce matin, il y avait encore une étudiante à la maison pour explorer un répertoire justement baroque et voir les possibilités avec les instruments naturels. Donc, c'est une collaboration d'une richesse inouïe. Tous les musiciens de l'ensemble Ptix ont été dithyrambiques en fait sur cette collaboration. Les étudiants, c'est pareil, ils n'arrêtaient pas de dire mais c'est merveilleux en fait. On n'imaginait pas partir de la répétition en sifflant Stockhausen, parce que en fait souvent Stockhausen c'est un compositeur qui fait peur, et en fait on va ouvrir le festival avec ce compositeur qui peut faire peur avec un spectacle absolument magnifique où on ressort du spectacle en sifflant justement des mélodies totalement atonales, mais pourtant qui emballent. Donc c'est là, je crois que je me suis un peu perdu par rapport à la question.
Mais on était très attentifs.
mais voilà, le partenariat, en fait, c'est aussi bien entre musiciens, étudiants qu'avec le public, qu'on a vraiment envie de partager ça et puis de découvrir, en fait, tous les champs possibles où la musicalité s'exprime. Et là, sur le concert de musique de chambre, donc qui va avoir lieu le vendredi 25 à Chambray-les-Tours, en fait, on va explorer plein de musicalités différentes depuis l'indétermination. C'est-à-dire que les musiciens n'ont que peu d'informations sur ce qu'il va falloir faire, mais ils sont extrêmement à l'écoute. Et toutes leurs interventions, elles se font les uns par rapport aux autres. Et on a énormément de surprises. Et en même temps, il y a des moments où on sait qu'on les connaît. On sait qu'à un moment, ils vont tous être sur la même note et qu'il va se polariser. Et ensuite, qu'il va partir dans des rythmiques un peu plus complexes. Et tout ça, eh bien, chaque fois, c'est différent. Et en même temps, il y a une force parce qu'en fait, ils ont une cohésion. Ils se connaissent depuis longtemps.
ils font beaucoup de musique ensemble et ils ont une complicité. Et vraiment, j'invite tout le monde à venir à ce concert parce que c'est merveilleux. Donc ça, c'était pour
tous les concerts.
Oui, tous les concerts. Mais bien sûr, non mais parce que j'ai, bon, je les connaissais pas tous. Bon, mais
pour résumer, on est très content du partenariat avec le pôle. Ça, vous l'aurez compris. Sidus, il y a l'Union des écoles de musique aussi, l'UDA 37, voilà, sur le projet avec violoncelle, l'atelier de violoncelle qui nous soutient. Et puis après, on a nos partenaires habituels parce qu'en fait, il faut de la collectivité territoriale, il faut des sociétés privées comme la SACEM. Voilà, donc c'est un enchevêtrement de plusieurs partenaires pour mener à bien.
Et alors, moi, je fais un petit bond en arrière sur cette thématique globale du festival. Quelles ont été les réflexions pour se réapproprier donc ces thématiques environnementales et scientifiques et les adapter à un festival initialement musical ?
La réflexion, je crois qu'on le sent bien. Nous, on part d'abord de musique qu'on a envie de jouer, qu'on a envie de partager. Il se trouve que moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. Des musiques qui vont au-delà de la propre musique, donc qui soit du point de départ, voilà, qui est une réflexion. Il y a une pièce de Lissy Prodom qui est vraiment en lien avec le phénomène des migrants, qui s'appelle « Désespoir en deux mots ». Il y a une autre pièce qui parle de la fonte des glaces. Donc en fait, voilà, il y avait plusieurs pièces depuis quelques années qui étaient là, quelque part. Et puis au bout d'un moment, bah, le thème de l'Anthropocène a permis de les rassembler. Voilà, en reprécisant que nous, on est musiciens, donc on n'est pas scientifiques, on n'est pas sociologues. Donc on transmet juste des compositeurs et des compositrices qui vivent dans notre monde d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, composer, bah, c'est être quand même assez conscient de ce qui se passe autour. Et il y en a beaucoup qui prennent parti en fait, sur des questions de transition écologique, de vivre mieux. Donc tout n'est pas en lien avec le thème, voilà, on n'a pas tiré non plus couper les cheveux en quatre, mais c'est plutôt une toile de fond en fait aussi pour que avant le concert, après le concert, entre deux concerts, on puisse parler de ça et puis vivre mieux.
Je vous propose de nous plonger dans le bain. On va faire une pause musicale sur Radio Campus Tour. Que va-t-on écouter, Marie ?
Alors on va écouter deux titres à la suite. Le premier de Mauricio Kagel, Marche pour rater la victoire numéro 2, qui sera donc donné pendant le concert de musique de chambre le 25 avril. Et le second, c'est un morceau de Philippe Hersan, Innominé, pour violoncelle principale et six violoncelles, qui sera donné pendant le concert d'Octueur de violoncelle le 26 avril. Thank you.
De retour après cet extrait musical d'En Sortez sur Radio Campus Tours. Je rappelle que Jean-Baptiste Appéré, Christophe Rostan et Benjamin Garnier de l'ensemble Ptix sont avec nous pour le festival Easy Listening à venir du 24 avril au 3 mai. Alors on parlait d'un événement, du coup c'est le jeudi 24 à la chapelle Saint-Libert à Tours, c'est à 20h30. Ça s'appelle Babel 21, c'est un spectacle musical zodiacal et nocturne. En quoi est-ce qu'il consiste? Et est-ce qu'on peut parler aussi un peu de la formation du Pôle Aliénor qui est professionnalisante?
Eh bien, je peux m'en charger. Donc, Babel 21, c'est une collaboration musicale qui sort un peu des sentiers battus, puisque au-delà de la pratique instrumentale, on a une pratique vocale, une pratique bruitiste, et surtout, il y a une mise en scène. Avec une mise en espace, spatialisation de la musique.
Mise en scène de Cédric Lestinf.
Exactement, et ce qui va être une expérience assez déstabilisante pour le public, puisqu'il y a une spatialisation avec des moments où les musiciens sont placés face public, mais où d'autres moments, ils viennent dans le public, voire ils entourent complètement le public, ce qui change la perception. Alors ce spectacle, c'est une collaboration. En fait, ce qu'on avait envie de partager avec eux, c'est... finalement, comment va évoluer, en fait, quels sont les possibles dans la représentation musicale. Et en fait, c'est vraiment important de sortir, en fait, des limites et des frontières qui ont été mises jusque-là par le concert classique que l'on connaît, où le public est assis gentiment, les musiciens défilent, font leur prestation. Là, il y a vraiment une interaction qui va opérer avec une musique assez déstabilisante et qui finalement devient petit à petit complètement normale. Et je vous garantis qu'on finit en sifflant les morceaux en sortant. C'est incroyable. On peut rencontrer un lion, hein, la clarinette, qui est assez remarquable. On peut dire quelques mots.
Antoine Moulin.
Antoine Moulin, qui improvise à la clarinette basse avec l'ensemble de cuivre derrière qui, en fait, l'excite. Et c'est un moment fort de ce spectacle. Et puis, il y a une relation forte aussi avec les éléments de terre, air, feu et eau, bien entendu. Et là, je vous invite vraiment à venir écouter parce qu'en en fait, on ne peut pas en parler. On a fait une répétition lundi juste avec les élèves du Pôle Aliénor, et on les a fait jouer, ils sont sortis de la répétition, ils n'ont pas osé nous le dire, mais ils se demandaient vraiment qu'est-ce qu'on allait faire dans ce spectacle. Et puis finalement, le lendemain soir, ils m'ont dit « Ah, c'est génial, mais c'était inimaginable. » Pourtant, vous aviez bien expliqué, mais c'était inimaginable. Voilà un petit teasing pour ce spectacle. Et sur la formation du Pôle Aliénor, c'est important de... Donc, en fait, il y a deux cursus. L'un pédagogique pour aller vers l'enseignement et l'autre plus artistique pour aller vers l'interprétation. Donc là, cette année, deux élèves ont pu intégrer le Conservatoire supérieur de Lyon en tuba. Donc ils vont venir jouer là, mais l'année prochaine, ils seront pour devenir musiciens professionnels d'orchestre. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Et puis, le but, c'est en fait... l'ouverture, oser improviser, oser chanter, oser faire de la musique avec des objets qu'on n'imagine pas, comme un verre d'eau ou un sac plastique. Et en fait, on peut s'exprimer de cette manière-là. Et en fait, cette ouverture va leur permettre d'être des professeurs inventifs et innovants pour leurs élèves et pour qu'on partage en fait notre art de s'exprimer avec... tout ce qui est possible pour faire passer les émotions.
Et peut-être juste rappeler qu'en France, il doit avoir 11 pôles de mémoire, donc ils sont accessibles. Je ne sais pas s'il y a des auditeurs intéressés. Comment on accède au pôle supérieur? Il faut un diplôme de conservatoire, quoi.
Oui, c'est sur concours. Sur concours. Une fois qu'on a réussi le concours, en fait, il y a une partie qui correspond à la licence de musicologie et puis une autre partie beaucoup plus spécialisée qui correspond à un enseignement supérieur de conservatoire avec des cours d'ensemble, les cours musique de chambre, de découverte des répertoires, et puis bien entendu des cours techniques sur leur instrument.
Et alors, Benjamin Garnier, le violoncelle donc, est mis à l'honneur le samedi 26 avril avec plusieurs concerts, mini cello et cello octuor, où sont mis à l'honneur Benjamin Cara et Philippe Hersant, dont on a écouté donc un extrait à l'instant avec In Nomine. À quoi pourra-t-on s'attendre sur cette journée ?
Alors, Benjamin Cara, c'est donc un interprète, c'est un défenseur, un militant de la musique contemporaine et particulièrement des musiques électroniques et des musiques mixtes, donc celles où l'on mélange l'acoustique et l'électronique. Il a beaucoup œuvré pour ça, il a une culture phénoménale et il travaille encore là-dessus. Et il a également composé une pièce tout à fait étonnante, une pièce remarquable qui s'appelle Le Grand Solennel, qui est un hommage à un des jeux de cloche de la cathédrale Notre-Dame, et que j'ai souhaité sournoisement faire découvrir à Jean-Baptiste Appéré.
Je confirme, sournoisement.
Voilà, en lui disant, tiens, est-ce que ça pourrait être un ticket d'entrée pour éventuellement monter un octeur de violoncelle. La pièce avait déjà été créée dans des conditions tout à fait modestes, et j'avais une vidéo amateur que Benjamin m'avait transmise. Et malgré cela, je pense que Jean-Baptiste a été convaincu et s'est dit d'accord, partons là-dessus. Mais
et c'était il y a déjà plusieurs années.
Hein. Oui, tout à fait.
Ça remonte peut-être il y a 3 ans.
En revanche, il fallait un petit peu étoffer le contenu de ce concert. Et là, on a pensé à un autre personnage, compositeur, cette fois-ci Philippe Hersant, qui est l'un des compositeurs français le plus joué à l'heure où on se parle, peut-être même pas l'un des, mais le compositeur le plus joué, qui a une musique qui, elle, pour le coup, est tout à fait easy listening, au sens premier du terme, qui fait référence à énormément de techniques de composition de musique ancienne, de grégorien, de plein chant, de modalité, de bisignum, etc. Et que l'on a déjà précédemment fait intervenir sur le territoire en tant que personnalité musicale, que pédagogue aussi d'une certaine manière, puisqu'on l'a demandé d'intervenir sur les œuvres qu'il avait composées pour violoncelle et pour viol de gambe. Donc il est venu maintenant il y a 2 mois pour faire travailler les étudiants sur ces œuvres-là, qui c'était l'occasion pour nous de faire un premier acte, une première rencontre avec lui, de le découvrir, de le rencontrer, et puis de le faire venir une deuxième fois, donc samedi prochain, en tant que spectateur cette fois-ci, pour qu'il puisse entendre donc deux de ses compositions qui vont nourrir ce concert d'octoir, c'est-à-dire l'hymne nominé.
Et la fantaisie à la manière de Callot, qui s'inspire d'une symphonie de Gustav Mahler.
Mmh. Et alors, Easy Listening, c'est l'occasion aussi de découvrir des compositions dont les premières françaises se font lors de ce festival. Je pense au ciné-concert organisé mardi 29 avril dans la salle polyvalente du Sanitas, qui mélange donc musique contemporaine et projection de documentaires sur l'Anthropocène, avec 3 musiciennes, et j'ai un petit peu peur de m'aventurer sur la prononciation malheureusement de leur nom. Il faut peut-être pas.
On va les citer. Ouais. Donc déjà le concept. Donc c'est effectivement un ciné-concert, c'est-à-dire on va rejouer...
Il y a beaucoup de renforts qui arrivent, merci beaucoup.
On va jouer 3 compositions en même temps qu'on projette donc des films extraits de documentaires qui traitent de l'Anthropocène. Ces 3 compositions environ 10 minutes. Et l'attente, c'est qu'entre chaque pièce, voilà, on puisse échanger avec le public sur qu'est-ce que ça lui a provoqué, qu'est-ce qu'il a vu à l'image. Il y a des films sur l'Anthropocène qui ont des images assez dures, parce qu'on voit, des éléments terrestres qui bougent, on voit de la surpopulation. Mais l'idée, c'est de faire bouger. Et donc, les 3 pièces qu'on a choisies, il y a donc « Des espoirs » de Lucie Prodhomme, ça sera la deuxième, on l'a créée l'été dernier, qui est une magnifique pièce pour clarinette basse et électroacoustique sur le fil, avec une sorte de cri jeté comme ça et qui résonne pendant 10 minutes. C'est vraiment très, très beau. Il y a une pièce qu'on adore de Maya Solveig Reichke, qui est une compositrice norvégienne. Alors, en France, personne ne la joue, mais vraiment, c'est génial. Il faut écouter. Elle fait de l'électronique, elle fait des sets, tout, tout, toute seule en scène, c'est vraiment super. Et elle, c'est une très jolie pièce, un peu en forme de drone, mais pour violoncelle. Donc c'est de l'électro, enfin c'est du violoncelle, mais qui imite l'électro. C'est super beau. Et puis la troisième pièce, c'est une pièce d'Agatha Zoubel, et ça sera la création française, parce que bah, c'est pareil, Agatha Zoubel, c'est une compositrice, chanteuse, percussionniste polonaise, mais qui est très peu jouée en France, enfin où il faut aller à Paris, dans les endroits un peu in de la musique contemporaine, mais à Tours, je pense qu'elle n'a jamais été jouée. Et donc c'est Shades of Ice, donc les formes de la glace, et c'est une pièce pour clarinette, violoncelle et électro-acoustique, et là c'est vraiment du figuralisme, c'est-à-dire on a l'impression d'être au milieu de l'Arctique et en fait que tout s'écroule. C'est absolument génial. Et donc voilà, on va immerger le public dans le dispositif électroacoustique pour qu'il soit vraiment au centre du son. Et je pense que ça sera un concert. En plus, la salle polyvalente du Sanitas, qui est une salle personnellement que j'adore, dans cet endroit qui est le Sanitas et que j'adore aussi. Et voilà, il faut venir au Sanitas, écouter ça, parce que ça sera sans doute une première. Et voilà.
Et si on reste encore sur le thème de l'Anthropocène, parmi les temps forts de ce festival, il y a ce grand concert en grande formation dans la chapelle Saint-Libert, intitulé cette fois-ci Anthropocène comme la Seine, précédé d'une conférence de Quentin Arnoux le vendredi 2 mai. Quelle composition pourra-t-on y entendre? Avec quel orchestre?
Alors, ça, c'est quand même la cerise sur le gâteau. Le seul regret, c'est qu'il n'y ait pas Benjamin avec nous sur ce plan-là, mais sinon, en fait, c'est le concert parfait. Alors, on est quasiment 30 sur scène, donc c'est presque du symphonique, parce qu'on va, donc il y aura un nocturne de Maxime Mantovani en création mondiale, donc par les étudiants du pôle, qui est vraiment magnifique, très beau, très belle pièce. Ensuite, il y aura une pièce électroacoustique de Christine Groot, qui est très environnement naturel. Il y a des sons de canne à pêche, il y a un son d'alarme, il y a plein de sons mélangés en fait, les sons du monde d'aujourd'hui. Il y aura une pièce de Christina Megheri qu'on avait reçue il y a 2 ans, voilà, et qui revient, qui sera avec nous, Christina, qui est hongroise, donc qui fait le déplacement, une création française d'une pièce pour orchestre de chambre. Il y aura la reprise de Scénorama, donc, qui est vraiment une pièce qui parle de l'Anthropocène de Maxime Mantovani. C'est une pièce absolument géniale de 15 minutes. C'est comme un poème symphonique. On a l'impression vraiment d'être dans les grandes pièces symphoniques du 19e siècle. C'est extrêmement suggestif. Il y a des bruits. C'est vraiment génial. Et alors, on finit, et là, on se fait hyper plaisir, avec une pièce de John Adams qui s'appelle Fearful Symmetries, qui pour moi est un peu comme... j'ai envie de dire, c'est mon sacre du printemps d'aujourd'hui. C'est une pièce qui est extrêmement virtuose, très colorée, donc pour quasiment 30 instrumentistes. Donc on fait une version réduite pour orchestre de chambre. Et en fait, c'est 25 minutes de flow constant, répétitif, minimaliste, super orchestré. C'est, franchement, il faut venir parce que vous n'entendrez ça jamais à Tours. Et voilà, donc Ptix est là pour vous faire entendre des choses comme ça.
On va l'écouter, Maxime Mantovani avec Octuor, donc pour Ensemble de Cuivre. Et c'est l'extrait d'une répétition par les étudiants du pôle Aliénor que tu nous as envoyé, Jean-Baptiste. Donc merci. Et on écoute ça tout de suite sur Radio Campus Tours.
C'est Maxime, ça ? C'est le cas de Maxime ?
Oui, c'est ça.
C'était Maxime Octuor sur Radio Campus Tour. Le
non, Maxime Mantovani avec Octuor.
Mantovani et Octuor sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Vous écoutez l'émission Sortez avec nous Jean-Baptiste Tapéré, Christophe Rostand et Benjamin Garnier de l'ensemble TIX pour le festival Easy Listening.
Et oui, donc cette pièce, on le disait, c'est une commande de TIX et c'est la première fois qu'elle est diffusée. Ça rigole pas, merci pour cette exclusivité. Et donc elle sera à retrouver c'est ça, pendant le concert, donc en orchestre du 2 mai.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous parvenez à accueillir un public diversifié sur ce festival ?
Je dirais quand même oui. Oui, oui. Alors évidemment, on en a l'ambition, on a envie. Ça fait partie de nos élans, enfin nos directions, nos principes. Je dirais oui parce que il y a deux ans, par exemple, on a fait. Enfin, l'année dernière, le Easy Listening, c'était la nuit à Salo Kegem. Donc, on a passé toute une nuit, on a joué, les gens ont dormi avec nous. Il y avait quand même des gens très variés. Il y avait des familles, il y avait des personnes âgées. Il y a deux ans, on avait joué à la piscine à Gilbert Bozon. Là, on avait fait le Titanic là, de Gavin Bryars. Il y avait 150 personnes et c'était vraiment très, très mélangé. Enfin, chez Christophe, tu avais amené des... Enfin, il y avait des élèves de...
Il y avait des élèves. J'enseigne à Château Renaud en SECPA et j'ai des élèves de ma classe qui étaient venus curieux de rencontrer en fait Gavin Bryars. Bon, je leur avais fait un petit peu de pub, mais ils ont vraiment apprécié et j'aime vraiment cette capacité que TIX propose à partager en fait des expériences. Et donc mes enfants étaient dans la piscine et ont pu écouter sous l'eau la pièce de Gavin Bryars. Et c'est pas du tout la même chose. Et c'était une expérience que on vit rarement.
Ouais, voilà, dans les publics, il y a 3 ans, donc on avait reçu Christina Megheri. Et je me souviens, avec les concerts, Benjamin avait participé. On avait une communauté hongroise.
Oui, on avait été... l'ensemble optique nous avait forcé à prendre des cours de hongrois, puisque certaines pièces nécessitaient que l'on parle, voire que l'on chante en même temps que l'on jouait. Donc on avait été très professionnels dans cette démarche. On avait accueilli 3 personnes qui étaient venues nous aider du mieux qu'elles le pouvaient.
De l'association Amitié Touraine-Hongrie, enfin quelque chose comme ça. C'était vraiment super.
Alors moi j'avais juste une question. Est-ce que, moi je suis déjà allé en Hongrie pour, personnellement pour aussi de la musique, et est-ce que vous trouvez comme moi, ou comme l'orchestre donc, avec lequel j'étais, que les musiciens hongrois jouent très très fort ?
Oh bah moins fort que les cuivres d'Aliénor, de toute façon. je n'ai vu aussi.
Ce qui est assez peut-être, étonnant, ouais. Je trouve, au-delà du volume qui est toujours délicat, parce que en l'occurrence, on n'avait pas de musicien hongrois. C'était à nous de retranscrire de la musique écrite. Donc c'est difficile de répondre à cette question. Et pour ne pas y répondre, je vais partir sur un autre champ. Je dirais que ce que ça nous a apporté, c'est la relation entre l'accentuation, les accents toniques de la langue et de la musique. Là, pour le coup, on a des parallèles importants, évidemment, et parfois même contre-intuitifs, bien sûr.
Est-ce que ce festival fait partie d'une stratégie pour rendre plus accessibles les musiques contemporaines ?
Ah oui, stratégie, c'est un bon mot. Hein. De toute façon, nous, en fait, on ne vend rien. Enfin, je veux dire, en plus, le festival, tout est gratuit. Alors, tout est entrée libre, vous venez. Si vous n'aimez pas, bah, au moins, vous n'aurez pas dépensé de l'argent puisque c'est gratuit. Donc, la stratégie, c'est que nous, on s'en missionnait. Alors, en plus, c'est vrai qu'on est soutenu par des gros partenaires comme la DRAC avec qui on est conventionné. Et en fait, clairement, notre rôle, c'est de faire passer un répertoire, un patrimoine d'aujourd'hui. Et donc on trouve des stratégies parce que il y a très très longtemps, quand on était jeune, on faisait 4-5 concerts à la salle Okegem. Bah, c'était toujours le même public qui venait, c'était le public de l'hypercentre ou le public des prébandes, voilà, avec des habitudes assez bourgeoises, et qui est un des publics, et nous bien sûr qu'on accueille avec grand plaisir, mais en fait c'était quand même très très dirigé, très ciblé. Et on s'est vite aperçu que ce n'était pas vraiment la proposition qu'on voulait faire. Moi, je pense que les musiques contemporaines, ce qui est assez phénoménal, c'est qu'elles parlent à tout le monde parce que personne ne les comprend. En fait, personne n'a les codes.
Puis, comme disait Christophe, comme l'histoire n'a pas encore fait le tri, on a des courants très, très variés qui parlent à des gens très variés. Donc, ça peut être l'occasion de, qu'il y ait une proposition pour chacun d'entre nous, finalement.
Et alors moi, je me permets de revenir un petit peu en arrière. C'est une question, on ne savait pas si on aurait le temps de la poser ou pas. Y a quelque chose dans la programmation qui a retenu mon attention. C'est donc le mercredi 30 avril à 17h au Beaumont. La création de Ptix, c'est la vie, qui est décrite comme une fantaisie bioacoustique théâtralisée pour une chanteuse, donc Ophélie Chapdelaine, et un instrumentiste, un certain Jean-Baptiste Appéré, en reprenant les textes d'Échille et de Camus autour du mythe de Prométhée, mais aussi du scientifique Augustin Mouchot, qui a travaillé sur l'énergie solaire, donc un mix entre réflexion antique et scientifique. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu?
Ah bah oui, carrément. Alors, il y a du Valère Novarina aussi pour compléter la liste. Bon, bisous à Ophélie. Et donc, c'est un spectacle qu'on a créé en février à Luynes. C'est un spectacle qu'on travaille depuis très, très longtemps. Et pour moi, qui catalyse un peu, finalement, mes sujets de prédilection, c'est une pièce assez autobiographique. En fait, j'ai plus trop de scrupules à faire de l'autobiographie en musique. Je me dis bon, allons-y. Et ça parle vraiment de mon rapport, à la vie dans différents moments. En fait, j'ai pris des auteurs que j'adore. Il y a une première partie qui est très bioacoustique, c'est-à-dire on est vraiment dans le cadre un peu d'un orchestre, un grand orchestre animal. C'est Bernie Krause qui a développé ce concept, c'est-à-dire il y a 8 haut-parleurs, on entend des sons de baleines, plein de sons transformés. Donc on ne sait pas si on est au fond de la mer ou au fond du ventre de notre mère. Il y a un jeu comme ça sur vraiment les origines de la vie. Ensuite, la deuxième partie, c'est le texte d'Échille sur Prométhée, que j'espère tout le monde qui écoute là au micro a lu, le Prométhée enchaîné. C'est vraiment génial. Moi, j'ai fait du théâtre grec avec Démodocos sur Tours il y a très, très longtemps et on adorait chanter et parler en grec ancien. Et ça m'est resté. Et en fait, Prométhée, c'est vraiment un personnage de l'Antiquité qui est assez incontournable aujourd'hui puisqu'il amène la connaissance, il amène le feu. Donc, on pourrait dire que c'est à cause de lui qu'on en est là aujourd'hui.
Ça lui en a coûté quand même.
Ouais, après il s'est fait punir, mais moi je l'aime bien quand même, il est assez sympa. Et puis alors il y a ce Augustin Mouchot, alors quand même un tout petit mot sur Augustin Mouchot, c'est génial. C'est un mec, il a vécu rue Bernard Palissy, c'est un grand scientifique, alors je dis un mec, c'est un peu vulgaire, mais il était quand même dans les plus grandes instances françaises au milieu du 19e siècle, et il a été voir Napoléon III en lui disant, il faut que l'énergie de demain, ça soit l'énergie solaire. Donc, en fait, il a inventé les panneaux solaires. Il en mettait en haut de son appart rue Bernard Palissy. Et il arrivait à chauffer sa baignoire, son eau. Voilà. Et donc, il a rédigé un traité. Donc, c'était 1859, je crois, de mémoire. Donc, il y a très longtemps. Et en fait, on a préféré le charbon. Parce que c'était l'époque des locomotives à vapeur, etc. Et en fait, il y a eu vraiment... Ça a été un moment de l'histoire très important où on est passé dans l'ère du charbon. Donc avec tout ce qu'on a subi, les conséquences de cette utilisation massive du charbon, alors que lui, il a vu cette vision vraiment il y a 150 ans, 180 ans, de l'énergie solaire. Donc c'est un gars de Tours vraiment génial. Et la dernière partie, c'est la partie qui est théâtralisée autour d'un texte de Valère Novarina, Le drame de la vie. On ne comprend pas du tout ce que ça raconte. Donc avec ma complice Ophélie, on essaye d'être drôle. Voilà.
Et du coup, quelles évolutions est-ce qu'on constate aujourd'hui depuis la première édition d'Easy Listening?
Puisque c'est la quatrième, c'est ça. Plus grand, plus fou, toujours plus.
Plus de propositions.
Ouais, c'est vraiment copieux cette année. Je dirais plus variable dans les formes aussi.
Les dispositifs sont plus variés.
Ouais. Plus de aussi vraiment plus de transmission, que ce soit avec le pôle ou avec les élèves violoncellistes. On a vraiment à cœur de, et d'ailleurs on commence à en parler, de transmettre ce qu'on a accumulé depuis des années sur ce répertoire là, de le partager. Christophe l'a beaucoup dit, et je crois que cette édition, c'est vraiment celle où on a grandi et puis on a envie un peu de léguer quelque part.
En parlant de transmission, quel message ou émotion vous souhaiteriez que le public retienne de cette 4e édition du festival ?
La curiosité, moi, je pense que... Et la diversité, en fait. C'est-à-dire que, bêtement, on a tendance à rester dans ses zones de confort dans la vie. Et en fait, là, on va pouvoir parcourir une grande richesse de partage de différentes émotions par des biais différents, la voix, l'instrument. On n'a pas parlé aussi des chorégraphies qu'on peut faire dans Babel 21 aussi, qui est un autre moyen de s'exprimer. C'est-à-dire que quand le geste remplace le son et prolonge le son, eh bien, il se passe quelque chose qui est extrêmement émouvant. Et même du point de vue de l'interprète, moi, je sais que sur Babel 21, on a eu l'occasion de le donner avec un chœur en octobre.
Chœur Chabrier.
Avec le chœur Chabrier. Et c'était extrêmement fort ce que dégageaient les corps. La spatialisation aussi, ça modifie totalement la perception, puisque le public se trouve à des moments immergé. Il peut être observateur, immergé, sollicité. Et en fait, ça invite à aller plus loin et à découvrir. Je pense que, voilà, brièvement, ce qu'on peut retenir comme émotion avec Easy Listening.
Et quelque chose aussi qui m'a interpellée, que vous disiez, Benjamin Garnier, est-ce que ça fait partie d'une évolution de la musique contemporaine ou est-ce que c'est plutôt propre à Ptix d'intégrer autant d'électronique ?
J'ai l'impression que les compositeurs et les interprètes font de concert avancer le rapport à l'écriture, la création, la composition. Ça a été vrai pour les outils comme la lutherie. Les instruments ont évolué. Parfois, c'était les interprètes, parfois, c'était les compositeurs. C'est vrai aussi pour la création, l'écriture. Les idées se nourrissent les uns des autres, des propositions, etc. J'ai l'impression qu'il est difficile d'en faire l'économie aujourd'hui pour ne pas être marginalisé, parce que l'outil est important. Parce qu'il apporte quelque chose pour peu qu'on souhaite y avoir une démarche de création et non pas seulement un gadget. Jean-Baptiste parlait tout à l'heure d'avoir un orchestre de haut-parleurs. Je crois que Ptix fait partie de ces ensembles qui ont à cœur d'avoir cette relation trouble entre l'acoustique et l'électronique afin que dans la réception du spectateur, il y ait parfois cette ambiguïté entre qui est-ce que j'écoute, qui est-ce que je regarde, qui est-ce que j'entends. Et précisément, le dosage que l'on aime bien faire, c'est parfois de nourrir cette ambiguïté. Je crois que ça fait partie des signatures de Ptix avec la spatialisation dont on parle souvent depuis tout à l'heure. Ce rapport à l'électronique, qu'il soit parfois dans la captation, tout simplement parce que vous avez entendu un extrait de répétition, etc., comme un témoignage, parfois dans la diffusion ou parfois comme support, parfois comme élément principal. En plus, c'est pas la démarche d'un seul personnage qui serait notre ingé son. On est nombreux à y être habitués, sensibilisés. On a un peu cette compétence, parfois, même si elle est minime, aussi du matériel, on travaille avec. Ce n'est pas un gadget, c'est une vraie démarche, sachant que les compositeurs, nombreux sont les compositeurs qui travaillent avec cet outil.
Et si je peux juste rajouter pour relier peut-être à Michel Lussault, dire que voilà, en fait, nous, on accepte le monde d'aujourd'hui tel qu'il est. C'est vraiment la pensée de Michel Lussault. On ne veut pas un retour en arrière de la ville d'avant, comme on a pu la connaître. En fait, le monde, il est là. Il faut l'accepter avec sa technologie. Donc, nous, on l'utilise, la technologie. Et à la fois, être dans nos corps, comme la chorégraphie que nous avait fait travailler Karine Bonneau. Et vraiment, le festival, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est être vivants. On s'inscrit dans un monde où il y a de la technologie. Et il faut apprendre à l'aimer, à le dompter, à faire avec. Voilà.
Donc, sur un mot d'adaptation, on va vous remercier pour cette belle émission.
Oui, la contrainte temps fait que on aurait eu d'autres questions à vous poser. En tout cas, merci beaucoup donc à tous les trois, Jean-Baptiste Appéré, Christophe Rostand et Benjamin Garnier, d'avoir été avec nous pour la présentation de cette 4e édition de Easy Listening.
Merci à vous.
Merci pour votre accueil.
On peut retrouver où la programmation ?
Alors, tout est sur le site de l'ensemble Ptix. Ptix, ça s'écrit P-T-Y-X, ensembleptix.com. Et nous avons quitté les réseaux pour des questions de valeur et de morale. Donc, suivez-nous sur le site, abonnez-vous à la newsletter. Et puis, voilà, regardez dans la ville, vous verrez peut-être des affiches qui traînent.
Mais nous allons nous quitter donc avec un extrait musical et pas des moindres. Il s'agit de John Adams et Fearful Symmetries. Alors peut-être que vous en parlerez, c'est une évidence que vous en parlerez bien mieux que nous, mais si vous voulez en dire un mot avant qu'on le diffuse.
Bah non, faut écouter, c'est trop génial. Rien à dire.
Oui, le podcast de cette émission donc, sera retrouvé sur radiocampustour.com et nous vous souhaitons une agréable soirée.